Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h06, on y revient au mastic, on est dans le super Moscato Show. Comme tous les jours, on est là de 15h à 18h, mais ça, les auditeurs, vous le savez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et bien sûr, on vous en remercie. On est avec The Flower, from Caro.
Salut Vincent.
Denis Charvet, comment il va Denis?
Très bien, écoute, très bien. Après une journée un peu difficile hier, on a rendu un bel hommage à Roland, et voilà.
Bravo.
C'était sympathique.
Notre costard Roland, enfin moi, il savait pas, mais il devait être. C'était bien.
Stifoulé,
bref. Oui, salut Vincent.
Oh,
salut.
Merde.
Bien beau début d'émission.
Oui, mais Vincent, je vois ce que tu veux dire. Roland, de là-haut,
ouais,
il a
bien ouais, de là-haut, ouais, c'est ça, j'avais oublié de là-haut.
Il doit être fier,
Il était heureux, bah, t'inquiète pas. Par contre, il te devait pas quelques sous des paris de lit, quand même.
Non, on était à jeu.
On était à jeu à peu près. Stifoulé, ça va?
Oui, très bien, Vincent, merci.
T'as été ému hier, je sais.
Tu me connais, moi je suis un grand émotif, donc c'était émotionnellement compliqué. Mais bon,
Steve, il supporte bien l'idée de la mort en plus. Ouais, c'est quelque chose qu'il porte en lui, tu vois.
Oh, non, mais après, je le comprends, parce que les grands comme ça, ça fait jamais de vieux os.
Par contre, je voudrais m'excuser, parce que hier c'était à l'église de la Madeleine, c'est la première fois que j'y allais, c'est une église magnifique, très jolie. Je voudrais m'excuser auprès de Barry Masloum, qui était derrière moi pendant la cérémonie, qui n'a pas dû voir grand chose, je pense.
Moi, si j'avais été Barry Masloum, que je vais t'aider. Alors toi, crois-moi que tu aurais serré les fesses.
Comment tu l'appelles?
Absoloum.
Absoloum. C'est un personnage de Blanche-Neige.
Oui, Brahim Absoloum. Adrien.
Comment ça
Adrien,
va?
Quand on m'a dit, je te dis en fait, oui, il m'a dit, il est quand même fou, il s'engage au Groenland.
Ah oui, alors le problème, c'est que j'ai appris ça à la radio en écoutant Vincent tout à l'heure. Oui. Je suis pas au courant. Il faut que je m'entraîne.
Couvre-toi, il fait froid. Prends même pull.
Ah ouais, je vais me remettre au sport là. Question moyenne. Quel est le plus probable cette année? Attention, cette question moyenne est très bête. Quel est le plus probable cette année? Vous votez sur Twitter. Ousmane Dembélé gagne un deuxième ballon d'or.
Ouais.
C'est-à-dire Ousmane Dembélé, ballon d'or 2026.
Alors, c'est possible. Non, mais en plus, il va falloir qu'il le rende, celui qui l'a gagné, parce que
plus il va falloir qu'il le rende. Attention, ou cette année, l'Olympique de Marseille gagne la Ligue des Champions. Quel est le plus probable selon vous? Elle est très bête et on l'assume. Elle est très con, merci, merci Denis, c'est un compliment.
Marseille qui gagne, c'est impossible.
Ah, j'ai compris. Quel est le plus probable? Dembélé, ballon d'or.
Dembélé, c'est possible. Écoute-moi, je pense que l'éclair de génie qui a duré 3 mois de Dembélé, c'est possible. C'est-à-dire, c'est Harry Potter, il a foutu un coup de baguette magique, c'est fini, il avait redressé le pied. Là, le pied est reparti en scoliose. Et donc là, c'est fini. Donc Marseille.
Qui gagne la Ligue des Champions.
L'an passé, il a fait que 5 bons mois.
Il a fait 5 bons matchs.
Mais il peut les refaire. Il y a un auditeur qui nous le fait remarquer sur Twitter. Il nous dit il suffit qu'il prenne feu 3 semaines pendant la Coupe du Monde de Coupe du Monde de Football, champion du monde, ballon d'or.
Mais déjà, les mecs qui lui ont donné, ils regrettent. Ils sont là, ils nous disent mais qu'est-ce qu'on a fait, les cons, vous l'avez vu jouer.
Moi, je veux dire Marseille aussi.
Tu réponds Marseille
aussi, parce que pour Ousmane Dembélé, ça veut dire que le Paris Saint-Germain est très très loin en Ligue des Champions et que l'équipe de France doit aller très très loin à la Coupe du Monde. Qu'il soit très bon à ces deux compétitions.
C'est possible.
Marseille, il faut gagner 4 confrontations à l'Europe.
Bien sûr.
Pierrot, quel est le plus probable?
Là, on est dans deux choses très improbables.
L'infiniment
petit. Là.
Oui, c'est ça qui est bon.
Tu souhaites déjà, toi.
Donc,
je suis pas d'accord avec vous, c'est que Dembélé, il l'a déjà fait, il peut le refaire.
Si,
t'as
raison.
Je t'ai déjà dit.
Une fois déjà, non?
Marseille, ils l'ont fait en 93.
Après, l'OM l'a déjà fait aussi.
L'OM l'a déjà fait, mais pas avec la même équipe. Donc, infiniment petit, donc quel est le seul truc qui pourrait éventuellement arriver? Il pourrait éventuellement arriver que le PSG regagne la Ligue des Champions avec un grand Dembélé.
Peut arriver.
Il pourrait éventuellement arriver que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde avec un grand Dembélé. Ah non, mais là on est
deux inconnus, alors que Marseille c'est
infiniment petit.
Ouais, donc je vais dire Dembélé.
Écoute-moi, je mets même pas 10 balles sur le pari.
Alors vous répondez, Éric Dimeco.
Les deux sont perdants, quoi qu'il arrive.
Éric Dimeco répondra à 16h. Il arrive à 16h, Éric, dans une heure, il répondra à la question moyenne, il se concentre là. Vous répondez sur Twitter à 60%, le plus probable, c'est Dembélé, deuxième ballon d'or.
Voilà, s'il fait ça, par contre, là, c'est chapeau ballon.
Voilà, c'est
chapeau ballon et pas de cuivre.
Il se retire,
Ouais, le bon truc. Non, s'il fait ça, je vais te dire, Pierrot, il y a des manettes qui s'appellent. C'est tout.
Nous allons...
Narcer a décidé de, d'acheter les mecs et tout.
Donc après, il faut quand même qu'il marque. Hein, donc, ça...
Il a remarqué.
Alors, prolonger Dembélé à 17h, est-ce un enjeu crucial pour le Paris Saint-Germain? Voilà, c'est notre débat sur Ousmane Dembélé au moment où s'élance la deuxième partie de saison la plus intéressante, évidemment. D'abord, le tennis avec l'Open d'Australie, Alcaraz. Est-ce la saison de tous les risques? Il paraît, Vincent, qu'en changeant d'entraîneur, il s'est mis en danger. Moi, j'arrive pas à comprendre ce truc. Donc,
et l'étape fusion avec l'ancien entraîneur.
Nos spécialistes tennis vont nous l'expliquer. Ouais. Et puis, un sujet qui est rarissime, les All Blacks en crise, puisqu'ils ont viré leur sélectionneur. Les All Blacks en crise, est-ce vraiment possible? Vincent règle le problème sur RMC.
Gros point.
Journal moyen. Alors, restez bien à l'écoute, parce que j'ai un cadeau exceptionnel pour tous les amoureux de l'OM. Mais d'abord, le programme du journal
exceptionnel.
Moyen. Oui.
Avec plusieurs S, Pierrot.
Avec trois S.
Trois S, d'accord.
Okay. 15h45, le journal moyen, première édition, hommage magnifique Estelle Denis hier, qui a fait preuve d'autodérision comme personne quand elle a organisé un débat dans son émission sur les demandes en mariage. Rendez-vous 15h45, magnifique Estelle Denis, et puis des saucisses dans les grandes gueules, et plein de mâchoires paralysées, et quelqu'un a tenté une expression, l'eau, le bain, le bébé. C'est un véritable fiasco également, 15h45.
Nos cadeaux. Alors, écoutez bien, donc, dans le Super Moscato Show, le Kikadi vous envoie à Port-Camargue pour un séjour bien-être 4 étoiles, 2 jours, 2 nuits pour 2 personnes en demi-pension au Talazur, Port-Camargue. Kikadi par SMS au 7 32 16. Et puis, dès que vous entendez...
Si t'aimes les moustiques, il ne faut pas laisser les clés sur la bagnole, parce que là, il y a du gitan comme s'il a pleuvé.
Cette alerte... Saisissez de votre téléphone, vous envoyez OM par SMS au 7 32 16. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner vos places pour le match OM Liverpool. Il n'y a pas que les places de match, donc mercredi 21 janvier 21h au Vélodrome. Il y a également deux maillots collecteurs de l'OM Marseille Monumental à gagner. Donc dès que ça retentit, dès que vous entendez Van Halen, OM par SMS au 7 32 16.
Et il y a un cours de pilates aussi avec Aurélie, la compagne d'Eric Dimeco en Suisse.
Tout de suite.
Est-ce qu'elle est toujours avec son prof de pilates
Vincent Alcaraz. Alcaraz, c'est pas lui aussi un flanc Mireille quand même?
RMC, le Super Moscato Show.
Gros problème, c'est que t'es dans un milieu de flanc Mireille.
Ouais, c'est fini, le calvaire de Carlos Alcaraz s'est achevé. Victoire impressionnante sur le plan physique.
Mais le problème, c'est que vous êtes bercé par du jeu-jeu à la babane. Voilà, t'es là, oh, tu regardes les cassettes des autres avant, mais bon, t'as compris.
On pensait tous avec Florent Serra que Djoko était dans le rouge. On ne devinait pas que Alcaraz était en fait encore plus touché physiquement.
Et puis surtout, le casque du mental fait de la boxe. Ouais. Parce que mentalement, vous êtes un peu des chamallows, je te le dis.
C'est un jeune homme, comme dirait Eric Dimeco.
Puis c'est plus des gamins maintenant. Hein. Ce sont des messieurs.
Des jeunes adultes.
Ah non, des messieurs.
Je sais pas, mais vous vivez ferré, mais je crois que j'ai gagné le dernier match sur terre battue.
Breaking news.
Ça va, les donc, tirage au sort de l'Open d'Australie ce matin. Carlos Alcaraz dans la partie de tableau de Tommy Paul, de Bublik, de Zverev, de Auger Aliassime. C'est plutôt clément, mais où en est Alcaraz? C'est ça la vraie question. C'est un mystère après la séparation avec son coach mentor Juan Carlos Ferrero. Alcaraz, est-ce la saison de tous les dangers? 32-16. Nous sommes avec Anthony Reich aujourd'hui. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Alors, pourquoi cette séparation est-elle si importante? Pourquoi est-ce qu'elle inquiète?
Eh bien, tout simplement, tu l'as dit, Pierrot, parce que Juan Carlos Ferrero était un peu comme le deuxième père de Carlos Alcaraz. L'ancien numéro un mondial a accompagné Alcaraz pendant 7 ans, de la fin de son adolescence jusqu'à cette fin saison 2025. Avec Ferrero, Carlitos est devenu un homme, mais surtout un champion. Ensemble, ils ont quasiment tout gagné. 24 titres, dont 6 tournois du Grand Chelem. La place de numéro un mondial conquise à plusieurs reprises. Omniprésent dans les matchs, dans son box, Ferrero parlait quasiment à chaque point à son désormais ancien joueur et a fait évoluer aussi le jeu du numéro 1 mondial sans jamais renier sa nature. Mais il est vrai que depuis la sortie du fameux documentaire sur Netflix, on avait vu que les deux hommes avaient quelques désaccords, notamment sur l'investissement et les sacrifices qui vont de pair pour devenir le meilleur joueur de tous les temps.
Vincent, est-ce que le champion est suffisamment mature pour passer à autre chose, ou est-ce qu'il y a un vrai risque selon toi que pendant quelques mois peut-être sa carrière soit un peu plus hésitante?
C'est pas une question de maturité, c'est une question, c'est affectif. Tu peux l'avoir à n'importe quel âge. S'il était très proche, si c'était assez passionnel avec son mentor, avec son coach, qui était un peu son mentor, tant que ça peut être compliqué. Là, c'est pas une question de maturité. Il peut avoir un passage un peu douloureux. Après, il a un tel niveau. Il a un tel niveau technique, un potentiel extraordinaire. Je pense que c'est avec Sinner, c'est les deux meilleurs. Donc, à partir de là, je pense qu'il va le surmonter. Mais qu'il ait un creux de suite après, parce que par un changement de tennis, et puis surtout un changement affectif, quoi, ben, c'est possible. Moi, je crois pas que ça soit une question de maturité. Tu peux l'avoir à 30 ans, ce genre de choses. Tu dois d'avoir un doute, question. De te dire est-ce que j'ai bien fait.
Je parle de maturité parce que c'est l'avis de Mats Wilander qui a dit ça changera rien, le champion est suffisamment bien fabriqué.
Oui, non, mais c'est pas la maturité. C'est ce que je te dis. Il peut y avoir un problème affectif, c'est tout. Quelque chose qui fasse que, bah, là, c'est un détail, quoi. Tu sais bien qu'il y a des phrases très cons, là, au niveau, c'est des détails. Ça, c'est con, comme phrase.
Il va remettre tous les ingrédients, tu crois?
Hein, les ingrédients. Les fondamentaux, les ingrédients, tout ça. Putain, les mecs, je te jure, ça me fait mal au tympan. Je tabasserai quand ils disent ça.
Non, c'est excessif.
Là, il peut y avoir. Mais non, mais. Ah non, les ingrédients. Ça, c'est, je crois que c'est le pire, ça, les ingrédients.
Maintenant, tout le monde le dit. Donc,
ah ben non, mais il y a longtemps qu'ils le disent, quoi.
Le
momentum, c'est pas pareil.
Contre ce genre d'équipe, tu fais la moindre erreur, elle se paye cash, Vincent.
Ouais. Non, mais, et là, t'enchaînes derrière avec. Oui, le haut niveau, c'est des détails.
On va se remettre au travail.
Écoute-moi, moi je pense qu'il peut. Oui, Mats Wilander, il connaît un peu le tennis. Techniquement, ça peut le changer, même techniquement. Méfie-toi que le coach qui arrive, il veut pas un peu personnaliser son entraînement et qu'il dise, moi je vois ça, tu sais, il y a toujours des embrouilleurs. Alors, plutôt que de le conforter dans la qualité d'Alcaraz, il pourrait lui dire, tu vois, sur ton coup droit, tu vois, le coude, lève un peu plus le coude, fait un truc comme ça qui peut l'emmerder. Bon, c'est pas la question. Mais au niveau affectif, il peut morfler un peu.
Stephen, inquiet ou pas inquiet?
Moi je suis pas inquiet. Déjà, c'est pas sur ce tournoi-là spécifiquement que je vais juger la séparation avec Juan Carlos Ferrero. On verra ça un peu plus dans le temps sur la saison globale. Si jamais il y a plusieurs accros, l'Open d'Australie, c'est le seul tournoi du Grand Chelem qu'il a pas gagné. Il a été en quart de finale max. Des accros avec Ferrero, il y en a eu dans sa carrière, des matchs perdus, des abandons, des problèmes physiques. Il y en a eu aussi. Là, pourquoi je suis pas inquiet? Parce que c'est un gamin de 22 ans qui a déjà gagné 6 tournois du Grand Chelem, qui a déjà gagné plein de Masters 1000. On n'est pas sur un gamin qui a 19-20 ans, qui est encore sur des promesses et qui se sépare d'un coach qui l'a emmené jusque-là où il est prétendant à gagner beaucoup de choses et il se barre avec quelqu'un d'autre. Là, c'est un gamin qui connaît le circuit par cœur, qui a déjà 6 tournois du Grand Chelem, qui va peut-être devenir, s'il gagne l'Open d'Australie, le plus jeune garçon de l'histoire à avoir gagné les 4 tournois du Grand Chelem à 22 ans. Celui qui a fait ça avant, c'est Nadal, qui avait 24 ans. Federer, il a fait à 28 ans. Il est quand même sur des bases déjà exceptionnelles. Et puis.
Federer, c'est une pompe, il a
une c'est une pompe. Quand même. Finalement, je suis en train de changer mon avis. C'est une vraie pompe, Federer.
Mais, ça fait un joli jingle, ça.
Mais surtout, on part pas dans l'inconnu. C'est-à-dire que, aujourd'hui, son coach, c'est Samuel Lopez, qui était le binôme de Juan Carlos Ferrero. C'est-à-dire que, sur le coach qu'il a actuellement, il a partagé tous les moments.
C'était le boss, Juan Carlos.
Oui, c'était le boss. Ça veut dire qu'il prend un mec qui connaissait la façon d'agir.
Sergi Lopez.
Sergi Lopez. Donc ça veut dire qu'il part pas uniquement dans l'inconnu. Maintenant, moi j'ai envie de voir. Je vais juger sur est-ce qu'il y a des ajustements tactiques durant la saison contre des matchs, est-ce qu'ils sont faits, est-ce qu'ils sont pas faits. Est-ce que la gestion des émotions, la gestion du stress, le déclin physique. Il y a déjà des changements. On voyait des vidéos qui circulent sur son service. Il a déjà changé des choses. Maintenant, la partie de tableau, tu l'as rappelé, Pierrot. Moi, je le vois pas inquiété avant les quarts de finale. Il y a deux garçons qui n'ont pas joué encore le moindre match. Chez Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, tous les autres, ils ont fait des matchs des 250 en Nouvelle-Zélande et compagnie. Les deux, on n'a aucun retour sur ce qu'ils ont pu faire avant. Ça sera la grande découverte.
Sûr.
Et
Djoko, mais on n'est pas inquiet non plus.
Djoko qui est du côté de Sinner.
Djoko qui était inscrit sur un tournoi mais qui a fait forfait.
D'ailleurs, on va faire le point sur les tableaux dans un instant avec Anthony. Denis, t'es pas inquiet non plus?
Non, je suis pas inquiet et ça m'étonne que Vincent n'ait pas repris l'expression de tuer le père. Parce que pour moi, s'il a tué le père. Tout simplement.
C'est beau, ça.
Mais c'est, non, mais
là,
c'est
il va entrer en phase de résilience.
Non, mais ça aussi, c'est trop, non, mais... ça aussi, ça fait partie des trucs trop cons. Donc, il est pas dit,
respecte ta sœur, s'il te plaît, hein.
Respecte ta sœur. C'est son métier. Psychologue, ouais.
Je pense qu'il est arrivé au bout de l'histoire avec lui. Alors après, on peut prendre en compte la lassitude du quotidien, la lassitude du discours, sûrement, tu vois, puis moi, je suis tellement étonné de l'exigence qu'ils ont à vivre avec un mec tous les jours. Tu vois,
toute l'année, voyager avec
lui. Tu manges avec lui, tu voyages avec lui.
T'as envie de les triper à un moment donné, le mec. Non, mais je sais pas, moi, lui. Puis en plus, il paraît que le Ferrero, c'est pas un mec.
Mais si vous voulez, pourquoi il y a des doutes, c'est parce que cette séparation.
Moi, je le sais, parce que moi, avec Denis, je le ressens. C'est pas facile.
Elle ne s'est pas faite suite à une décision sportive d'Alcaraz. C'est pas parce qu'ils étaient au bout du chemin. C'est parce qu'il y a eu embrouille en coulisses sur des négos de contrat, notamment. Ce qui n'est pas la même démarche que de dire j'ai fait le tour avec ce coach. Il faut que je passe à autre chose. Ce n'est pas cette démarche.
Non, je pense que ça fait partie aussi de ce que Ferrero est.
Non, mais s'il se sépare à cause de l'argent. Ça en dit long quand même sur leur relation humaine. C'est-à-dire que s'ils ont fait quelque chose de tellement fort,
et Piro, sous influence de l'agent.
C'est pas une histoire d'argent, c'est pas parce qu'il est espagnol,
Alcaraz, qu'il a envie de prendre un chorizo. Il a senti que l'autre, il voulait lui prendre plus de sous, d'abuser de la bête.
C'est la conséquence d'autres mots.
Alors, est-ce que tu peux faire un point là-dessus, Anthony? Qu'est-ce qu'on sait exactement de ça?
Vas-y, Richard.
Non, mais Denis, t'as pas totalement raison, parce qu'en fait, les causes de la séparation entre Ferrero et Alcaraz, c'est cette histoire de contrat qui a été soumise avec un deadline de 48 heures, où il y avait une augmentation de salaire, puisqu'une augmentation de prize money récoltée par Carlos Alcaraz conséquente pour Juan Carlos Ferrero.
Ça, c'est la normalité.
Mais néanmoins, il y avait des désaccords sur la gestion du calendrier d'Alcaraz, les exhibitions, etc. Et sur les sacrifices et le quotidien ultra exigeant imposé par Ferrero.
Il y a
une influence de l'agent qui est très connue dans le circuit du tennis.
Bernard Lapuerta, du monde du tennis, qui
était omniprésent. Il y a la famille qui est très présente aussi de Carlos Alcaraz. Donc il y a eu des éléments extérieurs au deal.
Stephen, tu dis on va pas juger si ça se passe mal à Melbourne, mais forcément.
Le raccourci va le faire.
Oui, mais moi je le ferai. Imagine il passe à travers. Tout le débat autour d'Alcaraz, ce sera. Doit-il le rappeler? Est-ce qu'il a pas commis une énorme erreur? Imagine, il a un trou d'air dès le premier tournoi de la saison. La question va se poser.
Mais c'est quoi un trou d'air?
Il n'a jamais dépassé le quart de finale. C'est quoi un trou d'air?
Vincent,
c'est ça.
Il y a un problème de lieu d'entraînement, parce que Ferrero vit à Monaco. Il voulait qu'il s'entraîne sur un rocher.
Avec le
presse.
C'est vrai, en plus.
Très bien amené. Bravo.
On va faire un point sur les tableaux qui ont été tirés ce matin. Est-ce qu'on est d'accord pour dire. Tu es d'accord avec moi quand je dis qu'il est plutôt clément pour Alcaraz?
Oui, la partie haute du tableau dans laquelle est placé Carlos Alcaraz est assez ouverte. Tu l'as dit, Pierrot, c'est tranquille jusqu'au quart de finale. C'est la partie basse de ce tableau, messieurs, qui est vraiment périlleuse pour Yannick Sinner. Vincent, qui débutera face à Hugo Gaston. Et dans cette partie basse, il y a Ben Shelton, Novak Djokovic ou encore l'Italien Lorenzo Musetti. Juste d'ici aux demi-finales, côté français, ça sera très dur d'aller chercher une deuxième semaine, voire même de gagner quelques matchs. Au premier tour, Humbert est opposé à Shelton, Valentin Royer face à Fritz. Il faut quand même surveiller Giovanni Empeci-Pericard, toujours en course à Auckland, là en quart de finale, qui pourrait aller jusqu'en huitième face à Sinner.
Hugo Gaston Sinner.
Hugo Gaston Sinner.
Gaston.
Premier set, je pense qu'il va mettre 4 jeux, puis après ça va faire 1 et 1.
Il joue de la main gauche. Tu crois?
Il paraît que Sinner, il joue de la main gauche.
Il peut pas lui choper un set?
Je pense
pas. C'est pas gentil, ça. Pour être Toulousain, c'est pas gentil. C'est pas beau de faire.
Alors, un peu de calme, parce que franchement, tout le monde parle en même temps. Écoutez, Anthony, tableau féminin.
Ça va être très ouvert. Arina Sabalenka dans la partie haute et Gaziantep dans la partie basse. Quatre Françaises en lice dans ce tableau, dont une invitée par la Fédération Australienne, c'est Sahara Kotomanga, qui va jouer Arina Sabalenka dès le premier tour. Autant vous dire qu'il y a très peu d'espoir. Oui, c'est à peu près ça. Ou mercredi, grand maximum.
Non, mais la question moyenne, c'est est-ce qu'elle marque plus de points que Hugo Gaston au premier tour?
Bonne question.
Plus de jeux.
Je pense qu'elle peut prendre un double bagueule.
Ah, tu crois?
Sarah, ouais. Contre Sabalenka. Je pense.
Est-ce que Hugo Gaston peut prendre une bulle? Juste une.
Deux. Est-ce qu'il peut ne pas prendre une bulle?
Hugo Gaston, tu veux le
score d'Hugo Gaston?
Vas-y.
Allez, vas-y.
Face à Sinner.
Il perd le premier, il y a toujours l'excitation, il joue bien. 6-4.
Ah, bien.
Et après, ça fait 6-2.
C'est Henri Toubon, quoi.
Voilà.
Il y a un 6-0, quand même.
Henri Toubon.
Je pense qu'il y a un 6-0, quand même, Stéphane. Parce qu'il y a un 6-0 derrière le 6-4.
Ouais, ça devient un peu dur pour Hugo Gaston. Je vous demande de vous arrêter. Merci beaucoup, Anthony. Bon,
merci, Richard.
Henri Toubon, c'est le mec de la famille de Toubon qui était la
Henri Toubon, c'est la caricature d'Henri Leconte dans le sketch des Inconnus.
Ah, oui. 6-0. Je suis accroché 6-4. Non, 6-0, Henri.
Oui, Henri Toubon.
Dans un instant. Romain Tamac, est-ce qu'il peut être appelé sans avoir rejoué par Fabien Galthié? À tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h30, on est dans le Super Moscato Show, on y revient, on mastique le stifounet, est avec nous. Denis Charvet, Adrien Gouin, mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Dans une demi-heure, nous allons parler de la Nouvelle-Zélande, des All Blacks. Les All Blacks en crise, est-ce vraiment possible?
C'est fou.
Vincent règle le problème.
Parce que c'est une bonne nouvelle, surtout.
Ah, je sais pas.
Non, pour le reste, je te rassure. J'en parle avec Pierrot, peut y arriver à 3 mois de la Coupe du Monde, peut y arriver 3 mecs en pirogue qui cassent tout et qui traversent le
oui,
terrain.
Oui, là, ils ont pas de joueurs.
Ils t'en sortent des mecs, tu mets un coup de pied dans un tas de cailloux, t'as 4 ailiers qui sortent, qui traversent le terrain.
Est-ce que Bernard Laporte est sur la shortlist?
Oui, oui.
Parce qu'il avait, il avait des relations avec les Néo-Z, Bernard, hein, il voulait faire.
Mais Bernard,
moi, je pense que vous connaissez Bernard Laporte, je pense qu'il n'entraînerait pas une autre sélection que le 15 de France, Bernard. Il est patriote.
D'abord,
il n'est pas patriote.
D'abord, Bernard est très patriote, ça c'est la vérité.
Mais alors, est-ce qu'il aime plus son pays ou
Mais tu vois, ce sur la Nouvelle-Zélande, tu sais, entraîneur.
Non, mais il irait, avec plaisir,
il irait. Mais il y aura un problème, c'est qu'il n'a pas suffisamment.
Sportivement, tu peux y aller quand même.
Bah, bien sûr.
Tu peux y aller, mais il y a une barrière pour Bernard.
C'est quoi?
C'est qu'il a fait les mêmes études d'anglais que Vincent.
Ah non, mais il te parle bien anglais, Bernard.
Il parle mieux.
Non, mais là, je peux pas supporter qu'on me dise que Bernard, il parle mieux anglais que moi.
C'est
anglais, c'est une énorme trompette. Moi, je suis au-dessus de. D'abord, je suis au-dessus de Denis en anglais.
Vous savez comment, il appelle Swing Low, Sweet Chariot, Bernard.
Vas-y.
Sweet of Chariot.
Mais oui. Truc-Lame, qui est quand même. Truc-Lame, ça part.
Mais comment il a fait à tout le monde?
Mais Denis, il a eu très bon. Il y a une vingtaine d'années, quand il était avec une Anglaise, il parlait en anglais. Il faisait semblant, moi j'y comprenais rien à l'époque. Donc je croyais qu'il parlait bien anglais. Vincent, après, je me suis vite aperçu qu'il comprenait que l'anglais.
Non,
il était mauvais comme
tout. Vincent, Bernard,
il est jaloux de moi.
Après, il parle très bien monégasque. Ça, par contre, il maîtrise.
À l'époque du RCT, Bernard, il y avait que les étrangers dans l'équipe, il faisait comment?
Ah, il avait.
Ne t'inquiète pas, moi j'étais le voir entraîner. Crois-moi qu'il était sur le terrain, il comprenait vite.
Il avait un team manager qu'on salue, qui nous écoute tous les jours, qui s'appelle Tom Whitford, qui était aussi très proche de Wilkinson et qui traduisait toutes les causeries de Bernard Laporte.
Moi, c'est Tom.
À la perfection.
Tom, il est en racine.
Non, mais après, bon. Oui. Tu travailles pas à la NASA. Quand t'expliques le rugby, c'est vite fait. T'as de la vidéo, t'as du tableau noir. Là, c'est les croix contre les ronds. Et les ronds rentrent dans la gueule des croix. Voilà, hop, les croix se redispersent. Ouais, après, c'est vite fait.
Après, t'as quand même des rendez-vous dans un burlingue avec les joueurs. Ah,
attendez, pour une fois, on n'est pas en retard. Donc, on va prendre 30 secondes pour une question moyenne improvisée.
Vas-y.
Mais pour l'instant, ni Vincent, ni Stephen ne répondent. Quel est le plus compliqué, la tactique en rugby ou en basket, Denis?
C'est une vraie question.
C'est une vraie question moyenne.
Ah, les
En basket.
Les systèmes.
En basket.
Plus compliqué en basket.
En basket, ok, pourquoi pas. Vincent.
Me semble.
Bah, t'es quand même, quand t'as 40 lancements de jeu différents, ok, au basket, t'as trois cons qui jouent mieux, qui se font des passes. Si tu me dis au basket, là, faut m'expliquer de lui quand même. Parce que là, l'histoire qui se réunissent autour de coach avec l'autre, il a un truc et qui marque au stabilo un truc, c'est parce que les mecs, ils sont neuneux, là, c'est bien savoir, là. Dis-toi, tu mets la passe à droite et toi, à gauche. Et t'as vu la tête? Là, ça va bien que les Américains, on les comprenne pas parce qu'ils parlent américain. Mais on les comprendrait, tu verrais un peu l'école des fans, là, je veux te dire. Là, tu verrais un peu le niveau.
Alors, t'as jamais vu un playbook équipe de basket,
mais
c'est pas parce que c'est pas que vous, votre coach,
il fallait que je retienne 30 lancers à touche, 30 lancers à touche.
Combien de systèmes sur un match, Stephen, ou sur une saison par exemple? Combien de systèmes différents? Ce qu'on appelle un système, c'est...
Déjà, t'as une vingtaine de systèmes sur une défense en Mahomes, t'en as une dizaine sur une défense en zone, t'as des systèmes sur les touches côté, t'as des systèmes sur les touches ligne de fond, t'as les systèmes quand il reste 5 secondes à l'horloge.
Attends, Vincent, début de saison en NBA, ils ont un bouquin de 300 pages à lire et à apprendre, les mecs.
Le problème, on en a vu quelques années. Qui le lisait à l'envers, qui le lisait de droite à gauche, parce que les mecs ne savaient pas.
Ils jettent le truc et les mecs se soulèvent, ils attrapent.
Non, mais écoute-moi, est-ce que t'as vu le niveau moyen des mecs qui jouent au basket? T'as compris. Donc le bouquin des 300 trucs, déjà c'est écrit gros, parce qu'il n'y en a pas un qui peut lire, c'est du digité, c'est écrit en phonétique, parce qu'il n'y en a pas un qui comprend que dalle. Non, ne me vendez pas, une fois que le jeu est lancé.
Sur le plus beau qui a écrit, c'est des images, vous, c'est des images.
Allez, on passe à.
Ne me parle pas de ce jeu de préau. C'est pour les enfants.
D'abord, on débute les bébés. Du super Super Moscato Show.
Alors, on s'inquiète pour Romain Tamac, forfait pour la réception de Sale en Champions Cup. On va faire le point sur son état de santé avec Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
D'après le club, il y a quand même une légère amélioration de ses douleurs dorsales. Hein.
Ouais, alors il est toujours pas remis, mais léger, comme vous voulez, ça reste léger, c'est le cas de le dire. Hein. Mardi, c'est contenté de quelques exercices, à savoir trottiner, un peu de vélo en salle.
C'est quoi, c'est les apophyses et...
On sait pas.
Non, c'est pas les apophyses. C'est en fait. Ça, c'est différent, ouais. Mais bon.
Me contrer, tu as sauté ton réponse.
Non, Vincent, en plus. Non, c'est pas les apophyses.
Non, mais je te connais par cœur, le soir de plus. Je te dis que c'est les apophyses.
Bon, on en reparlera. Il a fait un tapis de course, c'est anti-gravité, Vincent. Tu sais ce que c'est un peu? C'est
le
coup où t'es porté par une ceinture un peu, voilà.
Ouais. Bon, déconne,
c'est pour pas subir d'efforts sur le dos. Il est pas encore apte évidemment à l'entraînement collectif. Évidemment, il pourra pas jouer samedi, le dernier match décisif de Champions Cup face aux Anglais de Sale. Son dernier match remonte au 27 décembre face à La Rochelle. Ça va faire 3 semaines. Le problème, c'est que ce nouveau forfait va empêcher le Toulousain de jouer avant la communication de la liste des 42 pour le tournoi. C'est prévu mercredi prochain. La question de sa présence au sein du groupe va se poser, puisqu'il restera en fait qu'un match pour espérer le voir avant le rassemblement Marcoussi. C'est une semaine après Sale, le samedi 24 face à Pau, donc c'est dans 10 jours. Le rassemblement, c'est le lendemain, le dimanche 25, à moins que Fabien Galthié ne le prenne en ayant des assurances sur le plan physique. Mais si c'est pas le cas, s'il ne joue pas contre Pau, pas ce week-end-là mais l'autre, il sera resté 5 semaines et demie sans jouer avant d'affronter l'Irlande.
Alors, est-ce qu'il peut être dans la liste dans ces conditions-là, Vincent?
Non, c'est pas possible. C'est impossible si tu joues pas de jouer. Si t'as pas joué de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, c'est comment tu veux jouer, Pierrot? C'est pas possible. Tu peux pas défendre. Tu peux pas. T'as le jeu au pied. Au bout de 40 minutes, t'es dans le rouge. Et puis l'engagement physique au rugby. J'en parlais quand t'étais blessé. T'étais au bord du terrain. Déjà il y a 20 ans, 25 ans, ça t'impressionnait. Les chocs et tout ça. Et t'avais l'âge de jouer. T'étais blessé. Ça faisait déjà 3-4 semaines de voir les autres se rentrer dans la gueule. Tu disais comment je vais faire pour rentrer. Donc là, j'imagine maintenant que le rugby est encore beaucoup plus physique qu'il n'était à l'époque, où les mecs doivent aller 10 fois plus vite et qu'il faut qu'ils défendent, parce que là, il n'y a plus un qui se planque. Donc non, c'est pas jouable. Enfin, moi, je pense que c'est pas jouable. Si tu joues pas un match ou deux avant, tu peux pas jouer le tournoi.
Surtout
contre l'Irlande. Ouais, contre l'Irlande, comment tu fais?
Ramos ou Jalibert, pour toi?
Jalibert, Denis. Ou alors tu te tires une balle dans le pied. Tu peux pas dire c'est le meilleur Laguerlan. Jalibert, il en ce moment il marche sur l'eau. Tu peux pas dire au meilleur Laguerlan et puis pas faire jouer à la fois bricoler, mettre Ramos là et Drujan à l'arrière, c'est pas possible.
Après, moi je pense que c'est difficile, mais l'histoire parle d'elle-même. Fabien, il a déjà appelé quand il était blessé, il revenait de blessure.
Oui, mais là ça commence à faire beaucoup. Là, quand même.
Mais je pense que s'il a des garanties, s'il a l'assurance
que c'est pas mort.
Mais il le prendra.
Tu crois?
Sûr et certain. Moi, je signe là aujourd'hui, s'il le prendra.
Après, ça devient une obsession. Qui est plus réaliste. Et faut arrêter de se rassurer. Attends, à un moment donné, le mec, il t'apporte ou il t'apporte pas. S'il est blessé, il peut pas t'apporter. Oui, j'ai beaucoup de respect pour Romain Tamac.
C'est une prison.
Comme tout le monde, quand il est blessé, il a la trapinette.
Si t'estimes que le garçon peut jouer ou veut jouer, mais peut jouer.
C'est pas pareil.
Oui, non, mais même s'il a pas joué. La question qui se pose, c'est le rythme par rapport au rythme, en fait.
Mais s'il a pas joué, il ne peut pas jouer. Je ne comprends pas ça.
Est-ce que tu ne peux pas jouer une mi-temps?
Tu ne peux pas jouer une mi-temps contre l'Irlande. Tu ne joues pas contre la Sossouze. Oui. Si tu joues contre Oyonnax, un match amical, je veux bien que tu joues. Même moi, je joue à l'aile.
Mais on n'est pas sélectionneur.
Je parle au nom de Fabien. Moi, je pense qu'il le prendra. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose.
À un moment donné, il va peut-être se poser la question que Romain est souvent blessé et qu'il va falloir vraiment qu'il donne du temps de jeu à un autre.
Je pars du principe que Fabien Galthié, il va passer un coup de téléphone à Hugo Mollard.
Il a déjà fait, pour savoir,
en disant est-ce que Thomas Ramos va jouer contre Pau le 24? Est-ce que tu me garantis que Romain Tamac va jouer contre Pau le 24? Et si Hugo Mollard dit il sera là, pour moi, il va être dans la liste.
Mais de toute façon, tu sens ce qu'il fait.
Il va être dans la liste.
Mais tu sens ces histoires de coups de fil et tout. Tu sens qu'il y a une gêne, il y a un problème. Parce que quand un joueur du stade, même de l'équipe de France, a un petit problème au ligament du genou ou une entorse de la cheville, le stade toulousain, Hugo Mollard arrive en conf, dit Romain s'est fait une entorse de la cheville.
Séville. Là, ils n'ont pas communiqué réellement sur ce qu'il a. Et comme l'a décrit très bien Wilfried, on fait un peu de tapis, c'est léger, on n'en dit pas plus.
Il allège.
Il y a un problème.
Ils vont lui mettre pour l'alléger, ils vont lui mettre un tube de d'hélium, ils vont lui mettre de l'hélium dans l'estomac pour qu'il soit vraiment bien allégé.
Non, mais il y a quelque chose qui
n'est
pas clair. Ils ont raison de
faire un tapis.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas se rétablir dans les 3 semaines.
Oui, mais Denis, Vincent a raison de dire que si Romain Tamac n'est pas capable de jouer contre Pau, il est hors de question qu'il joue contre l'Irlande. Parce que l'Irlande, c'est un match d'entrée du tournoi. Tu ne peux pas partir avec Romain Tamac en disant peut-être qu'il peut faire une mi-temps. Ce n'est pas ça. Là, c'est un match de très haut niveau contre une équipe qui est dans le top 4 mondial, qui est peut-être une des meilleures équipes en Europe devant nous. Tu ne peux pas dire à Romain, puis je le sens bien, je vais le faire jouer 30 ou 40 minutes. Ce n'est pas ça, Denis.
À ce poste-là, tu pars avec un 10, il faut qu'il finisse. Pars pour finir. Oui, mais... Après, ça ne veut pas dire qu'à 10 minutes, un quart d'heure de la fin, s'il est gelé, bon, mais tu le remplaces. Mais normalement, un numéro 10, tu finis avec. Hein, parce que c'est quand même, surtout contre l'Irlande, hein, faut quand même que le mec, ça gère.
En tout cas, ça nous prouve que Fabien compte sur lui. Hein.
Ah oui, c'est la seule réalité.
À 3 semaines, Denis, à 3 semaines de France-Irlande, il ne faut pas de contact actuellement.
Oui, mais d'accord.
À 3 semaines de France-Irlande.
Fabien, ça prouve bien quand même qu'il le ménage. Pour l'Irlande, il me semble.
Mais pourquoi tu le ménage ?
Pour le faire jouer. Parce que Fabien compte sur lui. Enfin, moi,
mais personne ne le ménage, là. Il ne peut pas jouer. T'as
pas compris ce que je veux dire. Il le ménage, il le prépare pour arriver sans être blessé pour le match.
Non, mais Denis, Toulouse avait besoin pour un match décisif ce week-end. Hein. Il joue leur survie en Champions League.
Il ne peut pas.
Ah ouais, il ne le ménage pas, du coup, si elle peut jouer.
Merci, Wilfried, pour les infos. Le rugby avec Midi Olympique à 16h. Les All Blacks en crise. Est-ce vraiment possible ? C'est l'heure du journal moyen. Première édition. Sur RMC.
La première édition, exercice d'autodérision réussi pour Madame Denis, Vincent. Estelle Denis hier, magnifique, dans le journal moyen, première édition. Et puis alors là, ce matin, série de mâchoires paralysées dans les grandes gueules chez nos amis Marshall et Truchot. Et notamment, le retour de cette expression, l'eau, le bain, le bébé. À l'origine, il y avait Jacques Delmas, mais il y a un nouveau candidat dans les grandes gueules ce matin.
Il est 15h41, on est sur RMC dans le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h46, on y revient au Mastic, on est dans le Super Moscato Show. C'est le journal moyen d'Adrien avec
moi. Eh oui, très moyen, comme tous les jours. La première édition, magnifique Estelle Denis hier dans un bel exercice d'autodérision. Des saucisses dans les grandes gueules ce matin, ils étaient en forme. Et puis cinéma, la spécialité de Denis. Cinéma.
De Vincent surtout.
Chicha. On a un producteur et un acteur dans le Moscato Show.
Tu te rappelles le truc là, Chicha.
J'adorais. C'était le jingle canal cinéma.
Ça, ça allait très bien avec.
Vincent, le Chicha, il l'écoutait le samedi soir à 21h50.
Ça, c'est mon meilleur Chicha. Et tu te rappelles, ça allait très bien avec Serge Blanco,
équipe du dimanche. Vous écoutez RMC, c'est le 2490e journal moyen.
On va faire une émission comme ça.
De l'histoire.
Ah non, c'est
horrible.
Ah ouais ?
Pourquoi bien ? Comme ça, là. Je suis choqué à l'entrée.
Vous écoutez RMC, c'est le 2490e journal moyen de l'histoire.
Arrêtez ça tout de suite.
En direct de la rédaction de RMC. Toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
J'écoutais des grandes gueules comme tous les matins sur RMC, RMC Story, 9h midi. Et ce matin, on débute avec un festival de saucisses. Bruno Poncet, le cheminot des GG, qui parle de la situation à l'hôpital. L'hôpital français, saucisses.
Excuse-moi Olivier.
Dans les hôpitaux qui sont déjà débordés.
Moi je te parle qu'aujourd'hui quand tu te fais opérer en déambulatoire, un truc avant tu fais
en ambulatoire.
Putain, pourquoi je dis en
déambulatoire ? C'est parce que tu déambules.
Ouais, moi je déambule, je suis vraiment aujourd'hui en fin de vie.
Déambulatoire.
Ah non, mais moi je viens de faire un AVC hein. Depuis ce matin, j'arrête pas.
Hein. Il arrête pas, il a la maladie de Denis parfois, tu as cette maladie.
Moi, tu me regardes.
Parce que voilà. Olivier Truchot, la mâchoire. Attention là, il nous a fait une Eric Dimeco. Olivier Truchot, quand tu nous parles viticulture, Olivier.
Alors là, en plus, l'OMS parle d'alcool. J'imagine déjà la réaction de nos producteurs de vin qui vont tout à fait apprécier une taxe supplémentaire au moment où la viticulture.
Oh, je suis c'est
les viticulteurs sont en grande difficulté.
On peut se le refaire, c'est pas mal.
C'est lui qui a une grande difficulté.
C'est même Christophe Sissieux. Salut Christophe, si tu nous écoutes.
Ça va tomber dans les produits. Alors là, en plus, l'OMS parle d'alcool. J'imagine déjà la réaction de nos producteurs de vin qui vont tout à fait apprécier une taxe supplémentaire au moment moment où la viticulture. Je suis j'ai fait une pensée. Les viticulteurs sont en grande difficulté.
C'est un.
J'ai l'impression qu'il fait vivre les vignerons, lui.
Il a déraillé.
Sans prévenir.
Et puis, magnifique Moscard ce matin. Le Moscard star du Super Moscato Show et du Journal Moyen. On parle de la justice en France. Abel Boyi, l'éducateur des GG, nous offre ce très joli Moscard.
Qui reste quelque part en contact avec la victime. Tu as tellement de confusion comme ça, et à chaque fois on te dit que la justice est rendue au nom du peuple français. Oui. Alors je suis pas là pour jeter toute l'eau avec le bébé. Non. Effectivement.
Non. Genre, ouais.
Mais faut pas que je m'asseye à côté.
Magnifique.
Il a jeté toute l'eau.
C'est aberrant. Ça, mais c'est là. Tout le monde se lance dans cette explosion.
C'était un raccourci terrible.
On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ça?
Oui.
Mais l'eau avec le bébé. Donc, faut pas jeter le bébé déjà.
C'est la base. Ça, c'est la base. Hein. Oui, ça, le bébé. Ça ne peut pas. Jacques Delmas, version longue, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, après un match perdu. Il travaillait au Stade français, Jacques Delmas, à l'époque. Ça n'a pas duré longtemps. C'est le même thème.
On a loupé un rendez-vous. On a été absent au rendez-vous. Il faut l'assumer, nous les premiers. Mais bon, il faut pas tirer un trait à tout ça. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin.
Oui, voilà. Non,
l'eau du boudin.
La version longue est fabuleuse.
Non, mais ça n'a pas été battu. Il n'a pas été battu depuis. Il reste invaincu. Sur un truc comme ça, tu restes invaincu.
C'est trop.
T'as le record.
Que vient faire le boudin là-dedans? C'est incroyable.
Mais non, mais
il a été meilleur au Stade français ou à Toulon, Jacques Delmas, Vincent?
À Toulon.
Il a 4 titres.
Tu sais, il a été très bon. C'était à Grenoble, hein.
À Biarritz.
Non, il a fait.
Moins que pas de lui, il a gagné partout.
Il a joué la Biarritz,
avec Patrice Lagisquet.
Non, c'est un très grand coach, Jacques Delmas. Non, vraiment. Enfin, on rigole et tout.
Non, mais
on se moque pas, il a gagné beaucoup de titres. Donc,
sans transition.
Voilà, il en gagnera moins.
Magnifique Estelle Denis. Je voudrais rendre hommage à Estelle, dans Estelle Midi, qui est la reine de l'autodérision, sur un sujet qui est quand même intime et pas le plus simple pour elle. Hier, sujet, débat, parce qu'il y a des études qui sont faites en ce moment dans la presse, etc., sur le mariage en France. Le mariage, vous fait-il encore rêver? Le tour de table, elle pose une question au journaliste Baptiste Desmontiers qui est à côté d'elle. Elle lui demande comment lui a fait sa demande en mariage. Elle fait un petit tour de table sur sa bande. Et lui est un peu gêné, il dit, vous allez vous moquer de moi, parce qu'il n'était pas fier de la façon dont il a fait sa demande en mariage. Et là, Estelle Denis est magique.
Et vous, Baptiste, votre demande?
Vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule, Estelle. Ouais.
Non, on demande, je me fous de la gueule de personne, je vous assure.
Oui.
C'est vrai. S'il y a bien un domaine où je laisse les gens s'exprimer et je ne dis rien, c'est bien celui-là.
Oui. C'était plus intime, on va dire.
Oui, il y a moins de gens moi, écoutez, j'étais en mondovision. Allez,
vous avez oublié quand même cette histoire.
Moi non, vous voyez. C'est un truc qui m'a un peu poursuivi.
C'est un truc qui m'a un peu poursuivi. Oui,
il n'a pas été malin, Raymond, quand même.
Il n'a pas été malin, Raymond. Ça fait presque 20 ans, vous rendez compte? C'était en 2008. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, se rafraîchit la mémoire. Moment historique du foot français, quand même. C'est incroyable.
Télé française.
Les Bleus viennent d'être sortis en phase de groupe de l'Euro 2008. C'est la catastrophe. C'est le fond
Piteusement.
On perd 3-1 face à l'Italie et on n'est pas on se sent pas des groupes. On n'est pas en 8e de finale. Raymond Domenech va sur M6 à la fin du match. 15 millions de téléspectateurs, est en duplex aussi. Estelle voit ce qui se passe depuis le studio parisien. Écoutez ce qui se passe. Pierrot, je sais que tu aimes cet extrait. Les frissons.
L'avenir sera avec vous. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui attendent votre démission?
Rien, j'ai juste une chose à dire là aujourd'hui. C'est
incroyable.
J'ai fermé la parenthèse. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je me demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle.
Voilà, c'était incroyable, c'est l'histoire du foot français.
Il y avait la sortie de Roland quand même.
Ah, alors justement, je l'ai passé de cette semaine, mais bon, on va rendre hommage à Roland. En même temps, sur RMC, il y a l'After qui était présenté par Alexandre Delperrier pendant l'Euro. Et juste après, ils reprennent l'antenne sur RMC. Ils viennent de voir ce qui s'est passé sur M6. Alexandre Delperrier donne la parole à Roland.
Voilà, donc Raymond Domenech vient de faire sa demande en mariage à Estelle Denis en direct après l'élimination de l'équipe de France. Coach, faut que tu me dises quelque chose là.
Invitez-le!
Ben, il faut qu'il souhaite qu'Estelle ait envie d'épouser Jean, mais pas le sélectionneur.
Et voilà.
C'est
super. Le niveau d'impopularité de Raymond Domenech, je pense que c'est du jamais
égalé. Mais est-ce qu'on connaît le fin mot d'histoire? Si jamais la France avait, s'était qualifiée, il aurait quand même fait la demande.
Bah, non,
c'était un truc pour masquer un peu. Non,
peut-être qu'il avait prévu de le faire, mais qu'il pensait pas être éliminé. Et là, faut pas le faire.
Non, mais moi, je pense que là, il était tellement tout le monde était pris. Contre lui, il était dans la provoque.
Ah, c'est ça,
il était dans la provoque. C'était un moyen de.
Il
était très provoque, un peu illuminé, en disant c'est moi le taulier, c'est moi quelle position. Et il s'est fait, en communication, il s'est fait haïr le mec.
Vous vous souvenez de notre débat qu'on faisait, Vincent, sur Domenech?
En 2006, il fait une finale.
C'est fou.
Il s'est fait haïr. Et puis tu sais comment c'est quand un Vox Populi se met contre toi, après. Et t'as mis des chaussettes bleues, les mecs ils disent ouais, t'as vu
les mecs rouges.
C'est une horreur après. C'est une horreur après, c'est fini.
Allez, pour conclure, on a la chance d'avoir un producteur et un acteur avec nous de cinéma. Cinéma. Le film du dimanche soir. C'était bon cette musique, hein.
Pierrot, il se fout de ma gueule.
Mais non, c'est toi qui rigoles. Ce soir, sur TF1, Le Fils à Jour. Non. C'est l'heure des bilans en 2025. Paris, on peut être fier. La capitale de la France est toujours le champion du monde du cinéma. Le cinéma le plus fréquenté au monde en 2025, et ça fait quelques années que ça dure, se trouve à Paris. C'est l'UGC Ciné Cité des Halles, le quartier des Halles, dans le centre de Paris. Le cinéma le plus fréquenté au monde en 2025, et ça fait quelques années que ça, qu'ils détiennent ce record. 2,6 millions de spectateurs à l'UGC des Halles. Et la France est le premier pays en Europe où on va au cinéma.
Voilà. Aux États-Unis, il n'y a pas des big cinémas
plus grands que ça.
C'est de 700 ou 800.
C'est fou, hein. Paris détient ce record. Et ils tiennent, c'est la référence. Ah,
bien, ouais. Au monde.
Au monde, Vincent.
Ouais, ouais. Dans le monde.
Dans le monde, promis.
Dans le monde.
Une étude très sérieuse.
Je comprends que ce ne soit pas le pâté Gaumont de Beaugrenelle, parce que pour que tu vas au cinéma là-bas, il faut appeler ton banquier.
Pourquoi
c'est
pas ça, parce que c'est
des matchs.
Ah oui, je suis allé
là. C'est mal. Ah ouais. J'avais la chaise tremblante, de Pierrot. Tu vois pas tous les mecs qui rentrent discrètement, ils mettent la main à la poche, comme ça, tu sais, comme ça, hop, ça glisse, et puis la chaise, elle fait le reste. Ça tremble comme ça pendant.
Dans un instant, les All Blacks en crise. Est-ce vraiment possible? Vincent Moscato règle le problème sur RMC. 32-16, à tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.